ce deux lieux, parce que là-bas, une fois qu'on est là, souvent il y a des pétards, souvent il y a d'autres bruits par ici, notre conversation. Donc là, c'est tranquille. Et certainement, on peut voir encore d'autres soirées, s'il y a d'autres choses encore à laisser. C'est bon comme ça? Pour commencer avec le temple. On avait passé une soirée tantrique. Donc, quelques personnes n'étaient pas là. Le temple que nous allons visiter, c'est un temple tantrique. Et par habitude, nous aussi, on commence à dire... Vous entendez pas beaucoup? C'est vrai, il y a la, place aussi. C'est, on avait compris, la plupart de nous, compris le dimanche tantrique. Et par l'influence des religions extérieures, comme le le christianisme et l'islam sont basés sur les croyances. Et ici aussi, les Indiens commencent à dire ce qu'ils voient dans le temple sont des croyants. Mais en réalité, on ne peut pas utiliser ce terme croyant. Parce que le Dieu dedans, ce n'est pas, on n'imagine pas qu'il y a un Dieu là-bas, premièrement. C'est-à-dire quelque chose qui est partout, comment on peut dire qu'il est là-bas. On appelle, les mots ne sont pas traduits, hein. Donc des gens, c'est souvent des écrivains ou le journaliste, il ne prend pas de temps à vraiment approfondir qu'est-ce que c'est, quel est le mot équivalent. Tout ça. On appelle Sangalpa, pour ceux qui connaissent un petit peu les, le yoga, connaît le mot Sangalpa. Il y a deux façons que le cerveau fonctionne. Sankalpa et Vikalpa. Quand on compare les deux activités, Sankalpa, ça représente à peu près 1% ou 2% maximum. Et 98% de nos activités, c'est Vikalpa. Ça veut dire sans aboutissement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, mais pas forcément avec un objectif, avec un résultat recherché, c'est de l'air. Donc un sankalpa, c'est moi je veux monter sur une montagne. Mais je n'ai pas des moyens, je n'ai pas des possibilités, je suis incapable. Donc je ne suis pas capable de faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une montagne à ma taille. J'ai rendu, mais c'est rien à voir avec le vrai tâche de ce que je fais. Je vais faire une petite chose où je peux m'entraîner pour après monter sur cette montagne. C'est tout. S'il y a beaucoup d'endroits d'escalade en Europe, dans des écoles, il y a des espaces prévus. On peut s'entraîner, mais après un jour, quand on se sent bien équipé, parce que là, il y a, c'est protégé, si au cas où, s'il y a une chute, il y a quelqu'un pour animer, pour nous guider, il y a un environnement qui est propice, mais vraie escalade, c'est dans la nature. Donc il y a deux choses très différentes. Donc c'est pareil, quand vous allez au temple, c'est l'artifice. Pour pouvoir faire un autre chemin. Qui n'a rien à voir entre les deux. C'est un entraînement pour se regarder. Donc on dit darshan. Si vous demandez à quelqu'un qui va dans son temple, mais pourquoi vous allez au temple, c'est pour le darshan. Darshan, ça veut dire pour voir. Pour voir. Alors, voir quoi? Donc, c'est un lieu d'adoration de soi. Atma Aradhana, ça veut dire lieu d'adoration de soi. Mais ça peut être troublant, n'est-ce pas, de dire il y a un lieu pour s'adorer. S'adorer. C'est ça un temple. Un lieu pour s'adorer. Dans le contexte judéo-chrétien, c'est, on ne peut pas en parler de ça. Parce que Dieu lui-même dit que devant toi, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ici, le Dieu dit Tatwamasi, tu es le Dieu que tu cherches. Donc, c'est une autre logique. C'est pas pour dire que ça c'est mieux que l'autre, mais c'est une autre logique pour que vous puissiez faire un vrai visite. Vous pouvez louer un guide de coin, mais ils ne vont pas vous donner cette description comme cela. Ils vont dire, ça c'est un temple de Vishnu, Vishnu il a quatre bras, et Vishnu et Shiva et Brahma sont des trinités hindoues. Bon, peut-être un petit peu d'historique, Vishnu, c'est point barre. Donc il n'y a pas d'autre chose, il est bleu, il a deux femmes, etc. Alors, donc on ne peut pas accéder à l'utilité de cet artifice pour pouvoir se rencontrer en vrai. Parce que le vrai rencontre qui est utile, là c'est aller dans un temple, on ne peut pas rester là-bas. On ne peut pas rester adorer, ça ne sert à rien. Le vrai rencontre, ça se passe à l'intérieur de soi. Alors, donc c'est pour apprendre la population qui n'est pas forcément très raffinée, philosophique, profondément concentrée pour pouvoir vivre ça pleinement, c'est pas du tout ça. C'est un lieu où chacun prend ce qu'il est capable de prendre. Mais ce qui est proposé, c'est une ambiance. Mais c'est une ambiance tantrique. Parce que c'est construit selon les règles du tantra. L'autre jour, on avait un peu exploré ce que c'est le vaste shastra et comment on construit une maison. Donc il y a également les règles pour construire une maison et le temple, mais ces deux sont très très différents. Par exemple, vous pouvez voir dans un temple des formes carrées ou circulaires. Mais si vous mesurez, c'est au dixième de millimètre près. Ils sont exacts, mathématiquement, 100% parfaits. Mais quand on construit une maison, imaginez qu'on a une pièce, qu'on imagine qu'on va faire un carré, le maçon ou l'architecte, s'il respecte les règles de Vastu Shastra, il va faire un petit peu de décalage. Il ne fait pas 100% carré. Il va mettre un côté un peu moins que l'autre. C'est légèrement. Parce que c'est un lieu de vie. Mais un temple, ce n'est pas un lieu de vie. C'est un lieu où on rencontre la perfection. Là, il n'y a pas cette vie. C'est un lieu hors du monde. C'est un lieu sacré, c'est un lieu où on rencontre là où on n'a plus besoin de faire absolument aucune amélioration.
On n'a plus besoin de faire
aucune amélioration. Si vous peignez un tableau, à un moment donné, il faut arrêter de peindre, parce que c'est terminé. Mais si on ajoute encore un autre trait de pinceau, de couteau, c'est un trop. Ça va détruire, ça va plutôt dégrader. le tableau. Donc c'est pareil. Notre vie, c'est toujours un effort, c'est une agitation, on avance. Mais dans cette agitation, dans cette forme de lutte pour vivre, on a besoin d'une certaine durée de temps consacrée pour ressentir l'autre rivage. Ici, cette agitation, samsara, et on a besoin de voir l'autre côté. Donc le samsara, c'est souvent parlé comme la roue. C'est circulaire, ça tourne, mais au milieu, il y a l'axe qui est éternellement stable, qui est immatériel. Donc, quand vous allez en temple, en fait, vous quittez les forces, les phénomènes qui nous fait dans un tourbillon d'agitation, d'action, pensée, émotion, et on va aller dans un endroit. Mais en fait, c'est ce point qui est proposé dans le temple et c'est dedans. Mais on n'est pas capable de voir. C'est pour ceux qui ont déjà vu, n'a pas besoin d'aller. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas le temps de faire des heures de méditation et de yoga, des immenses efforts pour canaliser son attention sur des sensations véritables dans le corps, dans le souffle, dans l'être. Et puis, la plupart des gens, la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent, ils brossent les dents, ils prennent un petit déjeuner, ils se douchent, ils vont travailler, ils reviennent et ils dorment et ils se reproduisent, c'est tout. Donc, entre-temps, ils vont grandir et ils vont vieillir et ils vont mourir et disparaître. Donc ça fait des milliards d'années, hein, c'est comme ça, quoi. Mais à l'intérieur de ce processus, on sait que la futilité de ce processus, parce que c'est que rotation, on a besoin de trouver autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Donc ça, c'est un lieu sacré. Donc on va là-bas pour sortir. Donc ce bâtiment que vous allez visiter demain est construit pour faciliter cette découverte. Pour chaque individu. Mais il y a des enfants, des vieux, des adultes, des érudits, des gens qui ne sont pas du tout brillants du tout et qui sont là, mais chacun prend ce qui est capable de prendre. Et ce qui est commun, c'est une ambiance. Quelle est cette ambiance? Premièrement, bon, après on peut comparer d'un temple à un autre, mais ce qui est bien décrit, c'est un lieu où le sacré, en tant que personne, c'est quelqu'un qui habite, c'est une maison. Je vis dans ma maison, mais la seule différence entre le temple et ma maison, moi je suis mortel, mais le temple, il y a quelqu'un qui habite, il était mort. Donc ça c'est assez particulier. Donc c'est pour ça que quand un temple qui est construit, ça ne doit pas être détruit à aucune manière. Et ça pose pas mal de soucis quand on trace des autoroutes, quand il y a des développements pour diverses raisons ici, souvent il y a cette difficulté parce que selon les règles tantriques, quand on construit un temple, ça bouge. En fait, le prana pradishta, ça veut dire, c'est un peu comme le prêtre quand il dit corps de Christ, c'est, on doit prendre comme corps de Christ, 100% corps de Christ. C'est pareil, quand le temple est bâti et qu'on a rendu ce lieu sacralisé, ça veut dire c'est vraiment cette incarnation du sacré qui est là. Ça existe certainement, bien sûr, pour les catholiques, c'est comme ça. Et c'est pareil, le temple, c'est le corps de Dieu. Mais la différence, c'est pas Dieu, c'est moi. c'est chaque fidèle qui sont dans le samsara et ils vont rencontrer son sacré. Donc à l'intérieur il y a un miroir. Ce miroir est souvent, oh, il est pas là, il est parti. Il y a un miroir et donc ce miroir symboliquement c'est pour dire que il n'y a rien d'autre que soi qui est à l'autre. Quelquefois il y a une image, quelquefois il y a une lampe, quelquefois il n'y a même pas un miroir, rien du tout, quelquefois il y a des statues. Quelquefois c'est Ganesha, quelquefois c'est Shiva, peu importe. Toujours ce même principe. Qu'est-ce que c'est le même principe? C'est la représentation de notre être et là. Qui est l'union de masculin et féminin. Donc peu importe si c'est Ganesha ou Shiva, il y a le Shivalinga, le fondement de Shivalinga est là. Après, pourquoi il y a un temple de Shiva, il y a un temple de Vishnu? C'est pour le goût. Imaginez, vous allez dans un café, ça suffit de mettre de l'eau pour tout le monde. Mais c'est pas comme ça. On demande, est-ce que vous voulez de l'eau petit ou de Vichy, de San Pellegrino, ou il y a plein de possibilités, c'est exactement pareil. Donc quand on parle de monothéisme et de polythéisme, et, ça ne se comprend pas facilement. Parce qu'ici, il n'y a pas de doute. Il n'y a qu'un seul moi. Il n'y a pas un deuxième moi hein, dans cet univers. Ça n'a jamais été, il n'y aura jamais. Donc s'il y a quelque chose qui est unique, c'est moi. Et chaque être.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y en a qui justement vont dans les temples et qui sont dédiés à Shiva, à Krishna? Même si c'est une histoire du coup, il y a peut-être aussi quelque chose derrière que le simple goût. C'est déterminé par la symbolique même du dieu, non?
Non, j'aime bien boire des cafés de temps en temps, une tasse de thé. Pourquoi pas? Changer un peu. On n'est pas très fidèles. Dieu, c'est omniforme. Notre religiosité ici, c'est transthéisme. Dieu est là tant que ça sert, cette idée. Mais le jour où ça servit, c'est bon. On pourra en vivre. On a besoin de quitter quatre principes dans notre vie. Quatre principes. C'est la mère, le principe de la mère, père, maître, et dernièrement, Dieu. Il faut quitter Dieu. Si on ne quitte pas Dieu, c'est toujours sa faute. Quoi. On n'arrivera pas à prendre la responsabilité. Donc, Dieu, c'est une option. C'est pour ça que je dis, le temple n'est pas pour tout le monde. C'est populaire. C'est un lieu de fête, de cérémonie, de lumière, de bruit, de musique, de tout. Il y a une ambiance. Cette ambiance assez particulière, c'est à vivre. C'est pour ça qu'on va là-bas. Même les Indiens, même les gens qui ne connaissent absolument rien, même les gens qui croient ou ne croient pas, même les gens qui adorent Vishnu ou pas, même les gens qui ne savent absolument rien sur le symbolisme de Vishnu ou pas, de toute façon, on va là-bas. Il y a quelques règles 30. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas fumer dedans. On ne peut pas entrer avec les chaussures. Particulièrement le temple qu'on va visiter demain, on ne peut pas entrer avec les chemises pour les hommes. On ne peut pas aller là-bas après avoir mangé la viande. On ne peut pas aller là-bas après avoir bu de l'alcool. On ne peut pas engueuler dedans. Ce n'est pas un lieu de discussion. Peut-être vous allez voir qu'il y a des gens qui discutent. Premièrement, moi, je vais discuter. Bon, les règles ne sont pas 100% strict parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour le contrôler. Mais c'est un lieu d'adoration et donc maintenant il y a des restrictions plus en plus importantes comme pas de téléphone portable, pas des appareils pour prendre des photos. Mais tout ça c'est tout récent, bien sûr. C'est dans mon enfance que je connaissais absolument aucun panneau. Donc il y a certaines règles, mais les règles, je vais vous parler quelques-uns. On ne peut pas entrer avec un corps qui n'est pas propre. Donc il y a un énorme bassin, vous allez voir. Il faut se baigner, il faut se nettoyer. Mais comment on fait vraiment? Mais pour faire vraiment, il faut se lever très tôt du matin. Très tôt le matin. Donc c'est 3h30 pour aller se baigner, pour que 4h30 que quand le temple s'ouvre. Donc ça c'est le premier. C'est ceux qui pratiquent avec ferveur, il va là-bas. À 4h30. Ça s'appelle Brahma Muhurta. C'est le moment le plus propice à la découverte de soi. Comment il faut y aller? Avec un vêtement mouillé. C'est ici, c'est pas le pays froid, hein, c'est un pays chaud. Hein. C'est le matin, le petit matin, avec un peu de fraîcheur. On va là, dans le temple, peu vêtu. C'est-à-dire, on a une panne seulement. Ça, c'est permis. Normalement, il faut être nu, mais c'est pas possible. Donc, il y a plein de gens. Donc, il faut être nu pour rencontrer soi. Donc, ça, c'est
ça. Les femmes sont.
Ça est devenu un mythe. Seulement dans les films Bollywood qu'on voit, les femmes vont au temple avec le sari qui est mouillé, qui est collé dans son corps, qui laisse voir les petites choses. Ça, c'est dans le Bollywood. Mais dans l'imaginaire, mais dans la réalité, personne ne fait ça. C'est vrai, c'est marqué comme ça dans le texte. On se baigne et sans le sécher.
Dans les textes, c'était adressé aux hommes.
Non. Parce qu'il y a des temples. Uniquement pour les femmes, par exemple. Le temple des femmes cosmiques à Trivandrum, ça attire chaque année un seul jour 3 voire 4 millions de femmes. Ça bloque la ville tout entière. Oui, il y a des temples où les gens comme moi ne sont pas permis. Comme moi, c'est-à-dire les enseignants, donc des gens comme ça, et ils ne sont pas permis d'entrer. Il y a des temples où les hommes ne sont pas permis d'entrer. Il y a des temples où les femmes ne sont pas permises d'entrer. Il y a des temples. C'est très, très particulier. Très particulier, c'est-à-dire, ça c'est pour le comprendre, il y a une histoire aussi de temple. On propose quelque chose d'unique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un temple pareil que l'autre. Par exemple, il y a un temple de Subramania ici. Mais ça, c'est un temple de Subramania adolescent. Mais il y a un temple qui est plus loin, ça c'est Subramania adulte. C'est un peu comme je vous avais dit, c'est entre le Badois et San Pellegrino, la taille de bulle est légèrement différente. Mais ça fait plaisir. De toute façon, qu'est-ce qu'on veut? On veut une forme de divertissement spirituel. Mais il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui sont simplement pour être là. Mais de toute façon, cette ambiance progressivement guide la personne à acquérir certaines valeurs. C'est ça l'objectif. Donc c'est des lieux discrètement fait une éducation spirituelle. Discrètement. C'est pas comme le catéchisme, oui, Dieu il a dit ça, il faut apprendre par cœur le 7 péchés, le 10 commandements, il faut. C'est du boulot ça. Ici, personne ne parle. quand on va dans un temple, le prêtre, on lui appelle Shanti. On l'appelle Shanti. Ça veut dire paix. Donc la personne s'occupe du temple, en fait, sa responsabilité, c'est simplement garder l'espace dans un état de paix. Il ne doit pas parler. Il n'y a pas de transmission, pas de discours, rien du tout. Il va nettoyer, il va allumer les lampes, il va... Quelquefois, il les nettoie pas bien. Mais en tout cas, il est là pour garder les lieux à certaines ambiances. Donc il y a tout un rituel, je suis en train de parler de ce rituel. Donc on se baigne, on vient avec le corps un peu mouillé. On va entrer dans ce lieu sacré. Donc il y a une porte qui sépare entre le profane et le sacré. On avait posé cette question, est-ce que c'est sacré et profane? Donc le sacré, c'est l'intemporalité qui habite à l'intérieur de chacun. Mais le corps, c'est dans la temporalité. Le corps évolue. Mais l'être qui anime le corps, c'est en dehors de tout changement. C'est ce que nous sommes vraiment. Mais on ne le voit pas. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de voir clair cette éternité qui habite à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on va au temple. C'est pour voir. Mais voir quoi? Voir soi. C'est quoi? C'est pas le corps qu'on veut voir. C'est pas les émotions, les pensées qu'on veut voir. On veut voir le chauffeur. De ce corps. C'est lui qui décide, qui inspire l'action, qui mène en fait. Qui ou quoi est la force derrière mes pensées? Qu'est-ce que c'est les pensées de mes pensées? Qu'est-ce que c'est le souffle de mon souffle? Qui entend par mes oreilles? Qui voit à travers mes yeux? C'est une question. Qui utilise ces facultés? Donc ce principe, c'est qui? D'où il vient? Est-ce que c'est il ou elle? Donc c'est ça qu'on a besoin de voir. Mais c'est quand même compliqué. C'est parce que l'œil n'est pas capable de voir l'œil. N'est-ce pas? Celui qui regarde n'est pas capable de voir lui, mais il peut voir tout. C'est comme les phares des voitures, quoi. C'est fixé vers l'extérieur, on ne peut pas tourner comme ça. On a besoin d'un miroir, mais c'est ça le temple, c'est le miroir. Mais on ne se confond jamais entre l'image du miroir et le vrai objet. Donc c'est, on va rentrer, ça veut dire déjà, on doit quitter le monde d'argent, de temps. Donc il y a un temps où on jette de l'argent. Il y a beaucoup d'argent dedans. C'est marqué, il ne faut pas mettre de l'argent. Donc ne mettez pas l'argent. Mais symboliquement, autrefois, on mettait. Parce que tout au long de notre vie, on court pour gagner ce petit sou-là. Et c'est ça qui nous enferme dans le samsara. Donc pour entrer dans le temple, jeter un peu par la fenêtre. C'est symboliquement, on ne met pas des milliards hein, par la fenêtre. C'est quelques pièces, symboliquement, on le jette. Vraiment, on le jette. Parce que là, ça fait contrebalancer un petit peu au niveau nos démarches habituelles. Et on rentre. Et là, il y a un grand arbre. C'est un banyan. Avant d'entrer, on fait ça. Ça se fait très souvent ici. Je veux dire, bon, c'est marqué. Voilà. Le monde du temps est terminé. Le monde de trois temps intégrés dans un commence. Ça, c'est le lieu sacré. Pour le symboliser, il y a cet arbre avec les racines visibles. C'est pour ça que l'arbre, le banyan est choisi. Les racines, c'est le passé, notre origine. Le tronc, c'est notre présent. Les fleurs, les fruits, c'est notre devenir, avenir, notre futur. En fait, souvent, ici, ça veut dire dans notre monde de samsara, on est dans cette dynamisme de carotte-bâton, quoi. Donc, c'est devant quelque chose, c'est l'avenir, le fruit de nos actions qui sont quelque part dans le futur. Et c'est ça qui nous fait courir chaque jour. Et là, on doit réaliser que le passé est intégré dans le présent et le futur, chaque instant, se décide. Il n'y a pas de futur, mais on décide notre futur chaque instant. Donc ainsi, ces trois sont intégrés. Hein. Une fois qu'on a compris ces trois intégrés à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on doit bien comprendre, peut-être une seule visite dans ce temple, ça ne suffit pas. Parce qu'on a besoin de faire répéter encore et encore, parce que nous sommes dans ce monde de samsara. Nos réalités, si vous allez à un magasin pour acheter quelque chose, on sait la puissance de l'argent. Et cet argent, on sait comment on a gagné. Donc, il y a tout ce monde de dualité est affirmé sans cesse, on ne prend pas un instant pour voir ce que relie tout. On ne prend pas le temps. On voit la différence, mais on ne voit pas ce qui est entre nous tous quelque chose de similaire. On ne donne absolument aucune importance. Dans le monde de samsara, le 1 qui est à l'intérieur de toute chose n'est pas considéré. C'est-à-dire, si on considère, on ne peut pas faire des commerces. Imagine un homme éveillé, spirituel, qui vient en une boutique. Il va regarder chaque client comme lui-même. Comment il peut prélever un pourcentage? Comment il peut vendre un truc qui est périmé? Comment il peut tenir une pharmacie de poison pour que... Il y a plein de difficultés. Donc là, c'est dans le monde de samsara, on affirme la dualité. Vous, moi, nos intérêts, vos intérêts. Et là, c'est un monde de conflit. C'est dur de vivre tout le temps. C'est dur de vivre tout le temps là-dedans, de début jusqu'à la fin. C'est très dur. Parce que c'est dur parce que une partie de nous n'est pas vécue, ni apprise, est rejetée, oubliée. Et quelquefois, on mène un combat contre notre propre sacré pour l'oublier, pour le rejeter. On fait des thérapies pour pouvoir encore continuer dans ce monde de samsara. Là, on fait des dépressions. On fait des burn-out. Parce que c'est le chauffeur qui n'est pas considéré. La voiture est considérée, mais le chauffeur n'est pas considéré. Le chauffeur, on dit même, il n'existe pas. Vous comprenez? C'est, la science nous montre que l'univers, c'est sans absolument aucune intelligence qui est derrière tout ça. Si, voilà. Même une fleur qui s'ouvre avec plein de beauté, c'est un hasard. Si vous parlez avec un médecin de notre âme, mais il va rigoler, mais il a fait des sacs plein de fois et il n'a pas vu. Donc, c'est-à-dire, nous sommes aveuglés par notre propre limite que nous avons fixée. On refuse de dire je sais pas. On prétend, on dit oui, c'est que ça. Regarde ce cœur. Mais on peut greffer le cœur de quelqu'un d'autre, mais l'individu continue. que cette année, ils ont fait une greffe de tête. Je ne sais pas si je peux regarder. Si... Oui, vous êtes au courant? En Russie? Je ne sais pas si c'est réussi ou pas.
Confirmé.
Je ne sais pas si c'est confirmé.
C'est confirmé? Oui. Et après, c'est l'un des grandes confusions, c'est qui est lui. Celui qui avait la tête, qui est là. Si le corps était greffé par la tête de quelqu'un, ou la tête était greffée par le corps de quelqu'un.
C'est Ganesha.
Oui, Ganesha. Donc, quand on sort de ce monde de samsara, la partie de nous qui était oubliée, rejetée, écrasée, ça s'appelle Kundalini, le serpent se réveille. Mais quand je dis le serpent, n'imagine pas bien le reptile. La partie de nous, la partie du cerveau. C'est-à-dire, je suis à la fois l'homme, mammifère, l'animal, aussi le sacré, mais j'ai aussi une existence énergétique. Je suis les molécules, je suis des atomes, je suis énergie pure. C'est toutes les différentes couches, c'est des coupes. Donc cette énergie qui est fondamentale, qui est à moi, commence à se réveiller. Qui était dans un long sommeil, mais il n'était pas endormi, on l'a enfermé. C'est ça qu'on appelle l'éducation. On amène l'enfant à l'école et chaque jour, on va doucement, mettre cette partie. On dit, il ne faut pas, ça c'est non. Il y a plein de non. Et ça crée des nœuds, ça crée le ressort comprimé et on est assis dessus. C'est un peu comme un volcan. Donc on a toujours peur, si au cas où ça sort, les catastrophes, on a peur, si tous les instants qui vont se manifester, on a peur. Donc là, où est le problème? Le problème, c'est le conflit entre moi et moi, et dans ce conflit, il n'y a pas grand-chose qui sort. Notre énergie véritable est neutralisée à l'intérieur de nous par ce conflit, donc on galère après pour le reste du chemin. Je ne sais pas si Freud était au courant de tout ça, mais Jung, il a fait un petit peu de recherche sur nous. Certainement, quand on s'intéresse à soi, parce qu'on a le même appareil, quoi. On ne peut pas se tromper. Et encore, Freud n'a pas allé plus loin. Il a vu le ça et le moi et le surmoi, mais il n'y a pas que ces trois, il y a encore un quatrième. Pour l'être. Bon, ça c'est une autre discussion. On va revenir sur la question. Sous cet arbre, il y a un serpent. Mais une fois que ce serpent se réveille, on peut voir le monde comme un spectacle. Donc là, il y a une scène où le théâtre, toute forme d'art, la musique, le chant. Et après, en bas, donc entrée, donc le corps de sacré, on imagine comme un corps androgyne, ça veut dire homme et femme, hermaphrodite. Le corps allongé, on va rentrer par le pied, on va rencontrer cet espace vide pour voir le monde, cet espace où toute énergie est stockée. En fait, on peut regarder un ressort comprimé et c'est le stock d'énergie. L'énergie est stockée dedans. Et ça suffit de lâcher un peu. ça peut réveiller, ça monte. Donc ça veut dire, à partir de ce moment, le moule atara, qui est la racine sont à partir de là, il est tout à fait possible de monter, guider. Donc ce mouvement se fait pas, on ne rentre pas dans un temple comme ça. On fait le tour plusieurs fois avant d'entrer. Donc il y a le sexe de l'homme est montré, donc c'est soit des chakras, l'utérus est représenté, et tous les chakras sont représentés. Ici, c'est le sein des seins, le lieu d'union de tous les contraires. Ça, c'est le lieu où on imagine Vishnu avec ses pouces. Vishnu, c'est la vie. C'est ses pouces, c'est quoi? C'est la richesse spirituelle et matérielle. Donc, on va là-bas. Ça, c'est la forme. Parce que c'est peut-être c'est là que je peux un peu plus éclairer. Il y a des gens qui adorent Vishnu plus que les autres. On appelle Ishtadevata. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, bien sûr, on peut aller voir au café. Moi, je veux un espresso. Recette, un café allongé, mais parce que voilà, c'est des préférences, c'est tout. Donc, ça ne va pas nous empêcher d'aller voir dans un autre temple, même dans un temple de Shiva, vous pouvez prier Vishnu. Donc, ce n'est pas du tout polythéisme, malgré que le monde extérieur vu comme un polythéisme. Et c'était leur excuse pour attaquer. Donc il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de destructions de temples, en disant que c'est des polythéistes, parce que dans certains livres sacrés, c'est bien écrit qu'il ne faut pas faire aucune image, aucune représentation, il ne faut pas adorer plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul dieu. Et tout ça, ça fait des guerres, des millions de morts, dans les 14 siècles passés. Il n'y en avait pas avant. Avant, le roi, le devoir de roi, c'est construire le temple. C'est pour le peuple, pour le bien-être du peuple. Donc, comme il y a beaucoup de temps écoulé, il y a partout des temples. Il y a beaucoup de temps. Malgré qu'il y a beaucoup qui étaient détruits, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temples. Quelquefois, c'est une obsession. Bon, ça, c'est on revient à Marc. Et donc, cette découverte de soi est symboliquement, c'est une analogie en fait. Aller là-bas, réaliser, voilà, je promène à l'intérieur de moi. Et puis quand la cérémonie, donc on est un peu mouillé, on rentre, on attend, la porte est fermée, on attend. Ça, souvent, on n'a pas l'occasion de le vivre ça, parce que je ne vous amène pas dans cette façon-là. En tout cas, pas demain. Donc on va là-bas, on attend, on attend, on attend. Rien ne se passe. On est venu pour voir, mais il n'y a rien. La porte est fermée. Voir quoi? Voir le sacré. Mais lui, il n'est pas prêt à se montrer. Donc on attend. Il n'y a jamais fixe, l'heure fixe. Et on est là, on attend, on attend. On est debout, on attend. Il y a de temps en temps, on entend des nuits. Le prêtre, il va murmurer, il va chanter quelque chose, ou des petites cloches. Et puis on attend. Et d'un coup, les portes s'ouvrent avec une incroyable vitesse. Il y a des gens qui sont derrière avec les cloches qui vont sonner. Attention, Boulkiès. Donc ça sonne très très fort. Et les musiques, et les lampes. En fait, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va voir? Pleine de lumière. Pleine de lumière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Beaucoup de lampes qui sont dans. Et après, on va voir une lampe qui va faire des mouvements comme ça, qui va descendre. C'est exactement comme notre méditation, donc on avait vu ce matin. Donc on passe comme ça. Il va faire ce geste. Il va faire plein de fois. En fait, cette circulation d'énergie, du prana à l'intérieur. On doit vivre ça, on doit réaliser ça. Ça peut provoquer un état de satori. Satori, c'est le mot japonais pour parler d'un éclairage soudain de notre nature véritable. Quelquefois, rien qui se passait parce qu'on n'était pas investi, on n'était pas entré avec toute ferveur. Peut-être que ce n'était pas le jour, donc il y a deux jours, on est plus. L'état intérieur est propice. En tout cas, on vit là, on est resté. On reste là et on ferme les yeux. On se concentre sur notre propre être intérieur. Et on va voir, ressentir cette éternité qui nous habite. Et puis on revient vers le profane. Et là, c'est différent parce que on a la possibilité d'avoir le contraste. Surtout, c'est ça. Un tableau sans le cadre, c'est moins appréciable. Donc, une porte sans le dormant, ça ne sert à rien. Ça ne peut pas être fixé. Donc, en fait, on a besoin de quoi ? On a besoin d'avoir un contraste entre ce sacré et le profane. Quand on vit, je sais, quelqu'un qui vient de décéder, je sais que c'est pas grave. Absolument. Mais si c'est grave, dans ce cas, la naissance est très très grave. Parce que c'est parce qu'on est né qu'on est. Ou quand on voit deux amoureux et quand le couple se forme, c'est très grave. Parce que c'est ça l'origine de la mort. Vous comprenez ? Donc on va voir la vie différemment. On va regarder avec un point de vue de sacré. Donc le sacré qu'on avait légèrement goûté, peut-être, qui va nous aider à apprécier le monde. C'est le monde de samsara, c'est bien, c'est la galère en fait. Il faut se doucher, il faut se laver, il faut se nourrir, il faut travailler, les courses, tout ce qu'on regarde en fait. À la fois, c'est des obligations, à la fois, c'est foutu. Et quand on regarde par un objectif, par un point de vue du sacré, ça devient un jeu cosmique. Si vous regardez des hommes qui courent pour que le bal, un ballon qui passe entre deux poteaux, c'est vraiment drôle, quoi. Si c'est sérieux, c'est vraiment... Mais si c'est un jeu, ça va. Tandis que quand on regarde notre vie avec un recul, c'est que des lignes qu'on trace sur la surface de l'eau. Mais si on n'a pas ça, c'est chaque expérience, chaque jour, c'est galère. Voilà, c'est pour ça qu'on va se tourner en temps. Donc demain, on fera cette expérience. Et après, on verra. Voir la chambre j'ai été formé une partie, j'ai été initié dans la vie spirituelle. J'étais comme vous, je comprenais pas tout ça et puis j'ai écouté les maîtres, j'ai cherché à le comprendre, expérimenter. Donc c'est un lieu un peu spécial pour moi. C'est un lieu où il y a aussi l'histoire d'un maître qui a pu initier une réforme chez les hindous au niveau du système des castes. Donc c'est aussi, ça fait partie de votre voyage et découverte. Donc comme il est assez tard, 9h, je vous parlerai de se mettre dans un autre soir. Et ceci à vous si vous avez des questions.
Ce qui est délicat, moi, c'est comme demain on y va tous. Donc on parlera de ton maître une autre soirée. Oui. Et en fait, j'avais imaginé que vous pouvez en dire quelques mots ce soir, parce que demain, sur place, ce sera peut-être difficile de t'entendre correctement. Donc, est-ce que tu accepterais de dire quelques mots ce soir ou est-ce que... Oui, tu veux bien ?
Alors, c'est un ashram fondé par le maître des maîtres de mon maître, donc il y a très longtemps. Il a vécu 100 ans, il y a 100 ans. Donc ce lieu est chargé d'une époque aussi. Hein. 100 ans, c'est quand même beaucoup de différence par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand on arrive là-bas, il y a le mausolée de ce maître, donc le corps de maître est enterré. Donc on ne brûle pas le corps des personnes réalisées et les enfants. C'est parce que on imagine, c'est des croyances, on imagine qu'ils ne meurent pas. Et là, il y a un statue, on va voir ce statue. Il y a aussi un Shivalinga. Shivalinga, c'est la façon de montrer le plus parlant cette expérience extatique de naissance. Donc c'est l'union de féminin à masculin. Donc c'est aussi placé là. Donc ce lieu, on appelle Shivagiri, ça veut dire la montagne de Shiva, la montagne de la conscience suprême. On va visiter et là-bas, et puis on va visiter la maison des maîtres, on va visiter le temple de la connaissance, on va visiter le lieu où il a enseigné. Et puis il y a des bas-reliefs qui montrent un petit peu les différents événements de sa vie. Et puis le repas à 20h là-bas sur place. On mange, donc attention si vous devez prendre des cachets avant le repas ou après le repas, gardez-les avec vous. On vous donne de l'eau là-bas sur place, si l'eau est bouillie. Si vous doutez, dans ce cas, on peut acheter des petites bouteilles de l'eau. Donc il faut nous dire, parce que sinon on ne va pas pouvoir le faire. Et la nourriture, c'est souvent frugal, c'est simple, souvent épicé. Je passerai un coup de fil pour négocier que ça soit moins épicé ou pas du tout. Mais souvent, je ne réussis pas. Et vous allez manger avec les visiteurs, des pèlerins. Ça peut être soupe de riz avec des plats, des légumes, végétariens. Et quelquefois, c'est un repas complet.
Votre formation, elle a duré combien de temps avec ce maître ?
Donc, avec ce maître, c'est-à-dire le fondateur, c'est ces textes que j'avais appris, mais mon maître...
Votre maître a vu.
Donc, c'est un peu, c'est comme ça, quand on va dans une école, les novices n'ont pas l'accès au maître... suprême. Souvent, on travaille avec quelqu'un, un assistant maître. Donc, pendant 3 ans, j'étais avec un autre maître qui m'a donné le B.A.B.A. Après, au bout de 3 ans, donc en 86, j'ai eu l'occasion d'être avec mon maître. Et ça a duré 12 ans en tout, donc ça a duré à partir de 86, ça continuait jusqu'au 91. Et puis je commence à voyager, donc je revenais voir, passer quelques temps avec lui. Comme ça, la relation continuait. Donc c'était la prévision également, c'est 12 ans, c'est des tranches de 12 ans. Mais il y en a qui restent peu de temps. Il y en a qui restent toute leur vie dans des écoles comme ça. après son enseignement, sa philosophie, je ne vais pas commencer maintenant parce que je n'ai pas le carnet.